cours de philosophie critique par le père Philippe Saint Jadard le 27 avril 1988.
Réponds d'abord à quelques questions. Tout concept pour permettre d'organiser la connaissance s'insère-t-il, implique-t-il, je présume, une signification, une représentation, un jugement d'existence? Bon, nous sommes en critique, donc dans une analyse, et non pas dans la réalité telle qu'elle se présente à nous. Vous ne restez jamais suspendu à un concept. Ce serait une suspension assez délicate. Ce serait comme... je ne sais pas, un arrêt abstrait complètement. Mais je découvre le concept au plan critique. Ce n'est pas une intuition directe. Nous avons fait ça par rapport à l'appréhension. Nous avons découvert qu'il y avait une première opération qu'on appelle l'appréhension et que le fruit de l'appréhension est un concept. Je vis toujours au niveau de ma vie intellectuelle, au niveau des jugements. C'est la seule chose que je saisis dans ma réflexion immédiate. Même les intuitions impliquent un jugement. Ce n'est pas l'appréhension. Donc l'appréhension, c'est quelque chose que je découvre dans une réflexion critique, comme un moment intellectuel fondamental et premier. Donc le concept est le lieu de la signification. Il est toujours lié à une image. Le lieu de la représentation. Et il est de fait toujours, il s'exerce toujours dans un jugement qui radicalement est le jugement d'existence. Vous voyez bien. Mais nous pouvons, au plan critique, saisir ce que c'est que le concept en soi, ce qu'est l'appréhension. C'est tout l'effort que nous faisons, hein, de distinguer une première opération, une seconde opération. Je crois que c'est capital, ça. C'est difficile, il faut faire attention, il ne faut pas ressortir ça trop vite, ad extra. Il faut confonder l'appréhension et le jugement. Les gens ne savent plus ce que c'est. C'est ça qui est toujours très difficile dans la philosophie que nous faisons, c'est que de fait, depuis Occam, depuis le XIVe siècle, tout est confondu. Il y a eu un grand déraillement. Alors il faut que nous comprenions que c'est pas commode de découvrir ce qu'il y a d'élémentaire dans notre vie intellectuelle. Et c'est ce que fait la critique. Ce qu'il y a d'élémentaire, c'est l'appréhension, qui est saisie à partir du jugement, et qui est saisie comme un élément premier de toute notre vie intellectuelle. Et l'appréhension est source du concept saint. Chat. Vous avez un petit concept de chat. Ce concept de chat n'existe que dans votre intelligence. Il a une signification qui rejoint la réalité. Et quand vous dites chat, vous vous représentez. Petite icône de chat. Petite image de chat. Et vous pouvez dire, oui, j'ai rencontré dans ma vie des chats qui existent, jugement d'existence. Je suis parti de là, du reste. Si Le chat n'avait pas existé, je crois que vous n'auriez pas inventé ce que c'est que le chat. Du moins, moi, je ne l'aurais pas inventé. Si oui, l'intellect agent peut-il illuminer concept ? Peut-il illuminer un concept comme il le fait pour une image de la réalité existante, pour en extraire une forme intentionnelle ? Le concept est nécessairement illuminé par l'intellect agent, puisque le concept, c'est la forme intentionnelle parfaitement assimilée. La forme intentionnelle a deux moments, au point de départ de l'assimilation et au terme. Donc, je ne peux pas parler de forme intentionnelle sans parler d'intellect agent. Vous me direz, si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, vous me leverez la main, puis vous dites que je ne comprends pas. L'intellect agent est-il antérieur à l'intellect possible ? Attention, là encore, fruit d'une analyse. Alors, antérieur. Antérieur au niveau de l'analyse, de l'intelligibilité, l'acte donne l'intelligibilité à la puissance. Or, intellect agent, intellect possible, c'est acte et puissance du côté du nous.
Qu'est-ce que vous comprenez par intellect agent ?
Intellect agent, je comprends par intellect agent qu'il y a dans notre puissance intellectuelle un aspect. Un élément actif, voyez, que je saisis pour permettre le passage de l'image à la forme intentionnelle. Cet élément actif est inséparable de l'intellect possible. Ce n'est pas deux facultés. C'est dans la même faculté l'acte et la puissance, ce qui est possible au niveau de la vie et de l'esprit. Vous voyez, l'acte et la puissance sont distinctes au niveau de l'être. L'être en puissance et l'être en acte sont séparés. Dans la vie, puisque la vie est toujours donnée comme une modalité d'être parfait, et que la vie intellectuelle, c'est un être le plus parfait que je saisis. Il peut y avoir dans la vie intellectuelle, donc dans le nous, un aspect qui soit en acte et un aspect qui soit en puissance, dans la même puissance. Ce n'est pas contradictoire, parce que je suis au niveau de la vie et de l'esprit. Ce serait contradictoire au niveau de l'être. Mon intelligence est créée par Dieu. Je ne le dis pas tout de suite, hein. Je le dis à propos de la création. Je vois que l'esprit est nécessairement directement dépendant de Dieu. Le nous, mon nous, ne provient pas du nous de mes parents. Il provient de Dieu directement. Par mon intelligence, je suis fils du Père. Je suis fils de Dieu comme Père, par mon esprit. Mon conditionnement humain provient de mes parents et de l'atavisme. Et mon intelligence ne vient pas de l'intelligence de mes parents. C'est pour ça qu'un fils peut être plus intelligent que son père. Ce n'est pas l'évolution. C'est tout simplement Dieu. Et l'évolution veut expliquer le passage de la matière à l'esprit sans passer par Dieu, ce qui est impossible. La matière ne donnera jamais l'esprit. Il faut quelque chose de nouveau pour expliquer ce que c'est que l'esprit. Ça Ça, je ne peux le dire que dans un chemin de sagesse. Hein. Bon. L'intellect agent est-il antérieur à l'intellect possible ? Puisque pour qu'il y ait une assimilation de la part de l'intelligence, il faut nécessairement une forme intelligible issue de l'intellect agent, c'est sûr. Donc, antérieur d'une antériorité de nature, puisqu'il est en acte. Et l'acte est toujours antérieur à la puissance. Pourriez-vous répondre aux questions suivantes ? Très bien, très bien. Vous avez raison, parce qu'on est en critique. Les jugements artistiques, politiques et affectifs ne sont-ils pas simplement des modalités du jugement des principes ? Nota bene, voir au verso. Mais c'est un manuscrit, je respecte. Hein. Le manuscrit, on dit toujours recto et verso. Hein. Le poète, quand il regarde le monde physique, a-t-il un jugement esthétique ou artistique ? Artistique, c'est sûr. Le jugement artistique n'est-il pas réservé à l'artiste ? Non, heureusement. Vous avez du goût sans être un artiste qui crée. Quand vous écoutez un poème, quand vous écoutez la musique, quand vous écoutez les frères, le père chante qui chante l'invitatoire, vous écoutez avec votre intelligence religieuse, artistique, liturgique. S'il fait une fausse note, vous ne faites pas attention. Si vous êtes religieux, si vous êtes qu'artiste, vous dites « Ah oh, tiens, bête, il a fait une artiste, idiot !» Vous vous arrêtez. Tandis que si au contraire, vous écoutez avec votre sens religieux, ça n'a pas d'importance. Parce que vous savez qu'il a une intention de louer Dieu. Mais s'il était uniquement un artiste, ah, c'est autre chose. Quand vous assistez n'importe quelle activité artistique, vous êtes attentif et vous avez le droit de critiquer. C'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de critiquer quand le père chante et qu'il fait des fausses notes. Ça n'a pas d'importance. Parce que vous êtes dans un mouvement liturgique. Très important, ça. Mais le jugement artistique existe chez tout homme. Vous vous levez, il y a du brouillard ce matin. Vous avez un certain jugement artistique sur le brouillard. Et vous avez un jugement artistique sur le ciel magnifique. Sur le ciel bleu et la lumière merveilleuse. C'est un jugement artistique, c'est le goût. Vous goûtez la nature. Vous goûtez un paysage. Vous goûtez un tableau sans l'avoir fait. Vous voyez, il n'y a pas nécessairement d'inspiration pour le jugement artistique. C'est tout simplement l'intelligence liée au sensible, avec le point de vue affectif. Et vous goûtez, oui.
Est-ce que c'est juste qu'on dit les goûts, ça ne se risque pas, ou est-ce qu'il y a une objectivité dans les goûts ?
Bien, on va voir ça. Le jugement artistique n'est-il pas réservé à l'artiste qui seul peut parfaitement, je souligne, parfaitement saisir l'œuvre, par l'idée. Oui, parfaitement. Mais le jugement artistique du goût, autrement dit, quand vous goûtez un plat, un gâteau, ben, il a été fait par le cuisinier qui avait son idée. Le cuisinier l'a complètement raté. Et ceux qui le goûtent ne savent pas le jugement du cuisinier, heureusement. Ils le goûtent, ah, comme c'est bon. Et le cuisinier dira, mais espèce de béotien, vous n'y comprenez rien. C'est bon, oui, c'est bon, mais c'est complètement raté. Ça fait rien, vous pouvez trouver que c'est bon. Vous voyez, il y a deux jugements au point de vue artistique. Il y a le jugement premier, initial, celui qui goûte. Et le jugement proprement artistique, alors on pourrait dire esthétique et artistique. On pourrait dire ça. Je serais d'accord si je prends l'étymologie. Mais au-delà d'étymologie, esthétique aujourd'hui a pris une signification très différente. Oui. On pourrait, mais selon le langage habituel, on pourrait très bien dire que le jugement esthétique, selon l'étymologie du mot, c'est le sensible, aesthesis, c'est la sensibilité. Et le jugement artistique fait appel à l'idée. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a deux jugements. C'est ce que nous reverrions avec le point de vue de la vérité. Peut-on parler de jugement estimatif ou de jugement de valeur? Oui, il y a des jugements de valeur. Le jugement prudentiel ne porte-t-il pas d'abord sur la fin plutôt que sur les moyens? Les deux. Et l'harmonie entre les deux. Le possible logique n'est-il pas le possible? N'est-il pas un quatrième possible, pardon? Après les possibles métaphysiques, mathématiques et artistiques. Oui, d'accord. C'est un possible très particulier. Alors, est-il quatrième? Est-il premier? Ça dépend comment on compte. Et c'est les casseroles selon leur dimension. Je commence par les petites et je termine par les grandes. Je commence par les grandes et je termine par les petites. Peut-on dire que seule l'intelligence porte des jugements d'existence? Oui. Dès lors, si la raison raisonne à partir de l'imaginaire, on a toutes les connaissances idéalistes. Et si elle raisonne à partir des principes donnés par les jugements de l'intelligence, on a une connaissance réaliste. Oui. Je crois. Je le dis rapidement, on verra pourquoi. Ce que je disais tout à l'heure, à propos de la quantité, à propos de la raison, la quantité favorise les raisonnements. Et les raisonnements m'éloignent du jugement d'existence. C'est très curieux, ça. C'est dans ce sens-là que la quantité serait source d'une connaissance dialectique. Ce que je crois. Peut-on avoir une appréhension d'une image. Les formes idéales platoniciennes sont-elles uniquement imaginatives ou ont-elles quelque chose de plus? C'est un méta-imaginatif. Formalisation, voyez, analogue, comme le mathématicien formalise la quantité, je crois que le platonicien formalise l'image. C'est pour ça que les mathématiques jouent un rôle si important chez Platon. Pourriez-vous préciser, on essaiera de le faire progressivement, pourriez-vous préciser la distinction entre le jugement esthétique et le jugement artistique? Bon, très bien. Les divers niveaux de vérité, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va revenir là-dessus. Pourriez-vous expliquer la différence entre l'objet métaphysique et l'objet artistique? Ce que nous allons faire maintenant. Le jugement mathématique coupé du jugement d'existence montre que la connaissance mathématique relève de la critique. Or, vous dites aussi que la critique se prend au niveau du jugement d'existence. Oui. Faisons attention. La connaissance mathématique est sui generis et ne relève pas de la critique. Heureusement pour les mathématiciens. Je prends critique ici au sens critique philosophique. Mais chaque science peut avoir sa critique. Nous, nous faisons une critique philosophique. Et même métaphysique. Et même impliquant la sagesse. Seul le sage peut critiquer d'une façon exhaustive. Donc la critique présuppose la sagesse. La critique telle que nous essayons de la faire. Or, les mathématiques ayant un fondement dans le réel, pas direct, comment peut-on expliquer cette formalisation? Ça, c'est le gros problème de la naissance des mathématiques. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je crois, c'est pour dépasser le domaine de la quantité. C'est une manière de le dépasser. Très élégante. Parce que le mathématicien est toujours très élégant. Le philosophe est abrupt comparativement à l'élégance du mathématicien. Mais le philosophe sait quand il abstrait, tandis que le matheux ne sait pas. C'est le danger des mathématiques. En effet, si c'est un problème critique, il faut bien qu'il y ait une réalité existante présupposée, comme avant cette connaissance critique. Oui, on va essayer d'expliquer tout ça. Bon, alors, je continue. Pour essayer de comprendre, à partir de la diversité des jugements, la perfection propre du jugement, c'est d'atteindre la vérité. Le jugement n'est parfait que lorsqu'il atteint la vérité. La qualité d'un jugement, c'est d'être vrai ou faux. Et d'avoir conscience qu'il est vrai ou qu'il est faux. Ça, c'est la qualité propre d'un jugement. J'ai conscience de juger. Krinein, discerner. J'ai conscience d'affirmer ou de nier. Et j'ai conscience de dire vrai. Je vous affirme que ce que je vous dis est vrai. Je vous affirme que ce que je vous dis, c'est une opinion. Chaque fois que vous jugez, vous devez pouvoir préciser le degré de certitude et le degré de vérité au plan philosophique. Autrement, vous n'êtes pas en philosophie. Et un savant sait, quand il dit quelque chose, qu'il avance une théorie, une vérité ou une hypothèse. Il le sait. Autrement, ce n'est pas un jugement scientifique. C'est pré-philosophique, pré-scientifique. Le philosophe doit toujours être prêt à justifier ce qu'il dit. Comme le savant doit toujours être prêt à justifier ce qu'il dit. Donc la qualité propre du jugement, le jugement n'est parfait que lorsqu'il atteint la vérité. Et j'ai conscience d'atteindre la vérité. Donc la vérité implique cette attitude réflexive sur le jugement pour comprendre que le jugement a cette auto-lucidité. Quand je juge, j'ai cette auto-lucidité de savoir que je suis dans la vérité ou pas. Et je dis que la vérité, c'est dire ce que je dis est conforme à la réalité ou conforme à ce qui pour moi est la mesure de mon jugement. Seul, alors je dis bien ça, seul, le jugement d'existence pour le philosophe est un jugement dans lequel il y a affrontement avec le réel. et le réel est la mesure de ce qui est affirmé. De ce qui est affirmé à l'intérieur de mon jugement. Ce qui est affirmé, c'est que ceci existe. Donc, la mesure de cette affirmation « ceci existe », c'est le réel existant. C'est ce réel existant. C'est le « ce », ceci, existant, qui est la mesure de mon affirmation. Vous voyez que la définition que donne saint Thomas de la vérité, dans le De Veritate, question première, article premier, De Veritate. Donc, ça, il faut le connaître. Saint Thomas donne comme définition de la vérité adéquatio intellectus ad rem. Adéquatio intellectus ad rem. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Vous voyez que ceci n'est vrai que pour le jugement d'existence. Vous voyez bien que saint Thomas savait ce que c'était que le jugement d'existence. Seul, pour le jugement d'existence, je peux dire que la vérité, c'est que ce que l'intelligence affirme est adéquat à la réalité. Adéquatio intellectus ad rem. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Oui.
Cette adéquation de l'intelligence à la réalité implique une connaissance parfaite de la réalité.
Oui. Non. Ça veut dire que la vérité, c'est ce que l'intelligence affirme, intellectus, est conforme à la réalité. Donc, mon intelligence dans le jugement d'existence, affirme « ceci est ». Donc, la signification du « ceci est » ou le contenu de cette affirmation est adéquat à la réalité existante qui est mesure de mon affirmation. C'est pour ça que cette définition Veritas et adequatio intellectus ad rem n'est justifié que pour le jugement d'existence. Vous voyez ? Parce que seul le jugement d'existence a le contact direct avec la réalité. Nous allons voir ça progressivement. Oui ?
Quand l'intelligence affirme seulement une partie,
oui, toujours.
La réalité seulement d'un point de vue, c'est
tout à fait. C'est pour ça que ad rem, vous comprenez, il faut préciser. Ad rem tout court, c'est la réalité existante. Or, est adéquat à la réalité existante, seul le jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence n'affirme qu'une seule chose, c'est que ceci existe. Ceci est. Donc, adéquatio intellectus ad rem. Ce qui est terrible, c'est qu'on a fait de cette définition de saint Thomas la définition de toute vérité, alors que c'est vrai uniquement pour le jugement d'existence. Et encore, précisons, adéquation intellectus, c'est pas le nous, c'est ce que l'intelligence propose et affirme. Donc il faut encore préciser. C'est ce que l'intelligence affirme, le contenu de la proposition de l'intelligence qui affirme. Quand l'intelligence dit ceci est, l'intelligence affirme seulement que ceci existe. Donc que le ceci comme tel existe en dehors de mon intelligence. Adéquatio intellectus ad rem.
Comment puis-je dire que la différence entre l'appréhension et le jugement d'existence, c'est que dans l'appréhension, je saisis la fluidité de la réalité
et dans le jugement, je saisis la qualité existante de la vérité et ce qui fait que ces deux sont des formes intentionnelles. Parce que je ne peux pas mettre la réalité dans l'intelligence.
Tout à fait, tout à fait.
Même le jugement d'existence en saisissant la quiddité de l'existence de la réalité, c'est déjà une forme intentionnelle.
C'est sûr, le jugement d'intention, c'est pour ça que j'appelle ça, c'est que le jugement d'existence, vous voyez, a un concept. Le contenu du jugement d'existence est un concept qu'on appelle énonciation. C'est un concept complexe qui implique toujours un nom et un verbe. Toujours, il est complexe. Et ce jugement fait l'union du verbe au nom. Ceci est. Et j'énonce ça. Et donc c'est dans mon intelligence. Est-ce que cette énonciation est vraie ou fausse? Elle est vraie si elle est conforme à la réalité qu'elle exprime, qu'elle signifie. Donc il y a toujours dans tout jugement un concept complexe impliquant nom et verbe.
Pourquoi donc nous ne pouvons pas dire que dans notre génétique, l'appréhension est première?
Parce que l'appréhension n'est ni vraie ni fausse. C'est un élément. Oui.
Mais elle prépare le jugement.
Ah, elle prépare, c'est bien, c'est un élément. C'est pour ça que je dis un élément. Elle n'existe pas toute seule. Sauf pour Descartes. Pour Descartes, elle existe toute seule. Parce qu'elle existe comme une idée innée. D'où vient ce concept? Il vient de mon expérience. Donc, s'il vient de mon expérience, avant l'appréhension, il y a le contact avec le réel. Par mon jugement, par mon expérience. Voyez, ou ce concept est inné en moi, et donc il est donné directement par Dieu. Ou il est le fruit de ma connaissance. S'il est le fruit de ma connaissance, mais nécessairement avant le concept, il y a un contact avec le réel. Oui. C'est pour ça que je ne dis pas que l'appréhension est première dans l'ordre génétique. Je dis que l'appréhension est un élément de mon jugement. Un élément que j'extrais en analysant mon jugement. La scolastique a séparé l'appréhension du jugement. Et en séparant ça, Descartes est logique avec lui, avec la scolastique décadente, avec ses professeurs suarésiens. Il est conséquent de dire il faut des idées innées. Parce que si l'appréhension est première génétiquement, il faut des idées innées. Donc il faut des concepts innés.
Jean-Paul Sartre n'a pas dépassé le cas.
Quoi ?
Jean-Paul Sartre.
Ils sont tous dépendants de la scolastique décadente d'Occam. Tout le point de vue moderne est dépendant d'Occam. Tout. Ils n'ont jamais critiqué Occam. Et c'est leur source. Ça qui est terrible. Même Hegel. Pour critiquer Hegel, il faut aller au-delà d'Occam. Toute la dialectique présuppose ce point de vue-là. C'est là la faiblesse de la dialectique, hein, et de la scolastique décadente. Notre bonne scolastique dite thomiste est suarésienne. Elle n'est pas thomiste. Évidemment, c'est très difficile d'écrire ça. Mais elle est suarésienne. Parce que c'est Suarez le premier qui a dit que l'appréhension saisissait des idées. C'est pour ça que Suarez dit la métaphysique, ça commence avec l'idée d'être. Et que l'idée d'être est finie, infinie. Tout de suite, ça c'est Suarez. Et la scolastique a répété ça. Et on a dit que c'était thomiste, le baptême solennel de Suarez. En face des idéologies athées d'aujourd'hui, en face de Hegel, vous ne pouvez répondre que si vous allez au-delà d'Occam, et donc que vous bazardez toute la scolastique décadente et que vous le mettez dans le Capharnaüm philosophique et que vous revenez avant Occam à Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin définit la vérité comme ça. Regardez. Regardez loyalement cette formule de saint Thomas. Adequatio intellectus ad rem. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment vous pouvez vous adhérer, vous mettre en adéquation avec le réel, sans le jugement d'existence? Et le jugement d'existence, si vous l'analysez, vous êtes obligé de dire, il y a une appréhension. Mais l'appréhension n'existe que dans le jugement d'existence.
J'ai une petite question. Est-ce qu'entre l'idée d'être et la signification d'être, il y a une différence?
Alors, l'idée d'être, le concept d'être, me donne une signification analogique de l'être. Qui dit signification analogique, dit signification inséparable du jugement.
Je peux dire que l'une est idéaliste et l'autre est réelle.
Voilà. Si je coupe l'idée d'être du jugement, je retomberai dans une univocité. Et j'aurai cette univocité la plus fondamentale qui soit, finie et infinie. C'est la quantité. C'est extraordinaire. Tout se tient, vous savez, d'une façon admirable.
Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que Avicenne, c'est pas ce que vous connaissez.
Non, pas entièrement. Je purifie Avicenne, c'est ce que saint Thomas sentit. Pourquoi saint Thomas n'a pas accepté totalement Avicenne et qu'il a voulu revenir à Aristote? C'est qu'il a senti qu'Avicenne, il y avait du néoplatonisme. Et donc de l'idéalisme. Vous voyez, il est revenu à Aristote. Alors, il a pris dans Avicenne tout ce qui était acceptable. Primo cadit in intellectus ens. Ça, c'est Avicenne. Il a été jusqu'au bout, cette affirmation. Primo cadit in intellectus ens. C'est l'appréhension de ens. Mais ens, c'est ce qui est. Et cette appréhension est inséparable du jugement d'existence. Ce qu'Avicenne n'a pas vu assez.
Si. Mais si vous dites qu'il y a une différence entre l'idée d'être et la signification de l'être, cela veut dire qu'il y a une grande faute et une grave faute au point de vue traduction pour Avicenne. Et ce que dans votre livre, Ens et Esse, fascicule 2, vous avez expliqué. Alors, je vois que dans le texte même, il y a dans la traduction... une grande faute qui est différente.
Oui, c'est possible.
Idée d'être, et en réalité, ce n'est pas idée d'être.
Oui, c'est très possible. C'est très possible que, de fait, la traduction latine d'Avicenne trahisse Avicenne.
Ce qui fait qu'on rend Avicenne idéaliste, tandis que...
Remarquez, ça aboutit exactement à ce que vous dites. Phinianos, hein, je vous ai dit, Phinianos, qui a fait... une thèse sur Avicenne à Fribourg, avec moi. Je lui ai demandé de revenir à Avicenne arabe. Bon, et alors, son Avicenne arabe fait que de fait, Avicenne est beaucoup plus proche d'Aristote que l'Avicenne latin. Et alors, on a reproché à cette thèse de ne pas mettre suffisamment l'accent sur l'idéalisme d'Avicenne. Vous voyez ? Et moi j'ai soutenu sa thèse. On m'a dit, vous avez fait Avicenne beaucoup trop proche d'Aristote. Alors, ce serait intéressant de montrer comment cet Avicenne arabe est beaucoup plus proche d'Aristote que l'Avicenne latin. Mais saint Thomas ne connaissait pas l'Avicenne arabe. Vous voyez ? Il connaissait que l'Avicenne latin. Et moi, je parle de l'Avicenne, donc connaît saint Thomas, l'Avicenne latin. Mais il faut réhabiliter l'Avicenne arabe en montrant qu'il est beaucoup plus proche d'Aristote. Et ça ne m'étonne pas du tout. Parce que le latin ne connaissait Aristote qu'à travers Boès, avant l'apparition de la Vicène latin. Alors on a appliqué sans doute une vision logique sur Avicenne qui fait que l'idéalisme est introduit là-dedans. Vous voyez ? Sauf que moi, quand je parle de l'Avicenne, je parle toujours Saint Thomas par rapport à Avicenne, vous comprenez ? Mais ça m'avait beaucoup intéressé avec la thèse de Phidianos et j'ai vu les critiques qui avaient été faites. Et au fond, ces critiques, c'était des critiques de latin par rapport à l'étude de Phidianos sur Avicenne. Vous devriez lire l'Avicenne de Phidianos pour voir s'il est bien fidèle à l'Avicenne arabe et réhabiliter cet Avicenne arabe.
Mais Phidianos ne met pas cela.
Quoi ?
Phidianos.
Oui.
Ne met pas l'accent sur l'idée d'être.
Non, pas du tout.
La signification.
Pas du tout.
Parce qu'en traduisant, moi j'ai trouvé que. Moi, je me suis dit au début que c'est pas possible, que ça ne soit pas la même chose.
Oui.
Et si ça, c'est vrai, c'est-à-dire que.
Vous voyez, les latins sont logiques avant tout. Ils ne sont pas métaphysiciens. Ils sont logiques et rhéteurs. Juristes, rhéteurs, logiques. C'est ça les latins. Et la langue latine porte vers ça. C'est rhéteur, Cicéron. Cicéron est un des premiers qui passe du grec au latin. C'est très intéressant de regarder Cicéron à ce point de vue-là. Vous avez ensuite le point de vue logique, Boès. Vous voyez ? Et puis les juristes. Les latins sont des juristes. Ça, c'est le génie latin. Et les juristes. C'est pour ça que le génie français ou le génie italien n'est pas premièrement logique. Pour le français, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a toujours avantage de revenir au grec. Parce que le grec donne une formule beaucoup plus souple. La langue grecque n'est pas logique. Elle est diverse. Elle est qualitative. Et donc elle est beaucoup plus proche du génie métaphysique. Vous voyez, quand Aristote dit le toen legetai polakos. Toen legetai polakos. Donc, l'être, ce qui est dit de plusieurs façons. C'est la signification. Donc, le concept d'être implique en lui-même une diversité. Il n'est pas univoque. Et s'il implique en lui-même une diversité, le concept d'être est inséparable du jugement d'existence et de la diversité de mes jugements. C'est pour ça que je ne peux pas séparer la signification de l'être de la diversité des réalités, des modes divers d'être. Oui. Et séparer le concept d'être, la signification du concept d'être de cette diversité, c'est retombé dans l'université. Oui. L'ens comme tel, ce qui est comme tel, et ce qui est exprimé par le concept d'être, est divers. Legetai polakos. Donc il est analogique. Alors, essayez de bien comprendre ça, parce que ça me semble capital, que la définition que saint Thomas donne de la vérité, dans le De Veritate Question, article 1er. Je vous ai dit qu'il fallait regarder ça. Cette question-là, il faut la regarder attentivement. Eh bien, quand vous regardez cette définition de la vérité, vous voyez que saint Thomas dit, et puis ça a été repris dans tous les manuels, la vérité, adéquation d'intelligence avec la réalité. comprendre que ce que dit saint Thomas là n'est vrai que pour le jugement d'existence. C'est la vérité du jugement d'existence. Ceci est. Je vous dis que ceci existe. Donc, mon affirmation est conforme à la réalité. Mais, comme nous le verrons la fois prochaine, ce n'est pas la seule définition de la vérité. La vérité est analogique. Donc, c'est très bien de saisir le premier moment principal, le seul qui intéresse saint Thomas, le seul qui intéresse immédiatement la théologie scientifique. Mais il y a diverses modalités de vérité. Et c'est ce que nous verrons la fois prochaine.